Et bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui, nous reviendrons sur ce large succès face à l'autre promu de la Ligue 1, Lorient. On se demandera si ce score n'est pas un peu flatteur. Voilà, on aime bien chipoter, on peut se le permettre hein, cette saison. Et pour répondre à cette question avec moi ce soir, il est la caution journalistique de Culture Sang et Or, c'est Greg, l'Allemand de la Voix du Nord et la Voix des Sports. Bonsoir Greg.
Salut à tous.
Quel plaisir de te revoir, Greg, à chaque fois. Il est le plus beau représentant des supporters lensois en Espagne. C'est Antoine. Bonsoir, Antoine.
Salut à tous. Salut, Thomas.
Ouais, je sais pas si on l'a déjà dit que t'étais en Espagne dans les autres émissions.
Non, mais voilà.
Voilà, on le sait. Bien. On donnera
c'est
bientôt l'adresse.
Un peu plus beau gosse que Fred Hermel, mais encore, ça se discute.
Voilà. Il est le coach de Culture Sans Erreur. C'est Amaury. Bonsoir, Amaury.
Coucou, Thomas. Bonsoir à tous.
Et enfin, il a été des nôtres pendant 3 ans et a même participé à notre accession en Ligue 1 en 2014, c'est Jérôme Lemoine. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir à tous.
Jérôme qui lui est en Corse, hein. Vraiment on a des gens qui ont plus de soleil que nous ce soir. Donc Jérôme que nous interviewerons en deuxième partie d'émission. D'ailleurs n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Facebook ou dans le chat YouTube. Je me chargerai évidemment de lui transmettre ces questions. Vous le savez, vous commencez à me connaître, je le fais à chaque fois. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Alors avant de démarrer l'émission, je le rappelle, sachez que Culture Sans Erreur a désormais son propre site web culturesanserreur.com. Vous y trouverez plein d'articles sur notre cher club et d'autres clubs. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux @culturesanserreur sur Twitter et sur notre page Facebook, c'est sur laquelle vous êtes probablement pour suivre ce live. On va tout de suite débriefer donc ce 4-1 face à Lorient. On n'en a pas connu beaucoup, des victoires aussi éclatantes. Par contre, je me permettrai une petite question de provocation. Est-ce que ce résultat, ce 4-1, est-ce qu'on peut parler d'un résultat chanceux, Greg, pour commencer peut-être.
Chanceux, j'irai pas jusque là. Après, c'est évident que c'est la fois cette saison où Lens a été le plus efficace, hein, c'est évident. Ouais. Au-delà des stats, parce que les stats veulent pas tout dire, mais voilà, évidemment, il y a eu 6 tirs, 4 tirs cadrés, quasiment 4 buts, 2 pénaltys, donc voilà. Mais cette équipe, ouais, elle a eu dans certains moments, je pense surtout à la fin de la première mi-temps où les Lorientais ont eu vraiment des grosses situations et on sentait que le bloc équipe, enfin, en tout cas, qu'il y avait des vrais espaces dans lesquels Mofi ou d'autres venaient s'intercaler. Il y a eu vraiment des gros moments de flottement. Voilà, tout a rigolé hier et ça n'a pas été toujours le cas pour Lens cette année. Il a parfois manqué d'efficacité dans des matchs qu'il a vraiment beaucoup plus dominé que celui-là. Donc, ma foi, on va pas dire que ça s'équilibre parce qu'il y a encore beaucoup de points à récupérer par rapport à ceux que Lens aurait dû avoir probablement sur certains matchs. Mais ce qui n'empêche qu'hier, ouais, c'était assez extraordinaire d'efficacité. On a l'impression que dès que Lens voulait marquer, il marquait. Et c'était vraiment une drôle d'après-midi. Voilà.
Parce qu'on a le sentiment peut-être cette saison d'avoir fait des matchs plus solides et pas forcément avec un 4-1 derrière. Antoine, toi, tu dirais que c'est chanceux, flatteur?
Non, je dirais clinique. Ouais. Je trouve qu'on a été clinique, voilà. Et en fait, je trouve qu'on a, pour reprendre un peu aussi ce que disait Greg, effectivement, il y a eu deux formes de domination. En fait, j'ai trouvé des Lorientais, une domination qu'on a un peu subie, je pense, dans la deuxième partie de la première mi-temps, et une domination lorientaise qu'on a peut-être un peu choisie en deuxième mi-temps.
Et toi, Jérôme, dans ta carrière, est-ce que t'as déjà eu des matchs comme ça où tu te dis bon, l'adversaire a peut-être un peu mieux joué que nous, mais au final, tu l'emportes avec là 3 buts d'écart. Est-ce que t'as connu des situations comme ça?
Ouais, ça arrive assez souvent dans un championnat. Après, sur la durée, non, mais il existe, on va dire, quelques matchs où on fait ce qu'on appelle où l'adversaire, en tout cas, on a l'impression qu'il a la possession, mais s'il concrétise pas dans ses temps forts. Parce que hier, j'ai un peu regardé le match. Je crois qu'à un partout, Lorient en quelques situations chaudes.
Clairement,
ils n'ont pas su concrétiser et à un moment donné, ils ont fait preuve de réalisme et d'efficacité les Lensois derrière.
On peut parler d'un match clinique, comme dirait Antoine. Effectivement, tu parlais de la possession, Jérôme. La possession sur ce match, c'est 62% pour Lorient et c'est pas des possessions qu'on a beaucoup vues chez nos adversaires. Alors, je parle de stats, donc je vais donner le bâton de parole à quelqu'un qui aime les stats. Amaury, toi, est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un résultat chanceux?
Chanceux non, pour moi c'est vraiment cette action litigieuse de Clément Michelin là, ce penalty qui est le vrai tournant. Ouais. Parce qu'on est sur une grosse phase positive de Lorient, sur un gros temps fort qui correspond à peu près à 20-45 et eux ne marquent pas sur leur temps fort, nous on a marqué sur nos temps forts tout simplement. Ouais. On fait une très belle entame je trouve, 0-15, on est vraiment très bien. Ouais. Et on marque le but fort logiquement et ensuite eux marquent leur but aussi très logiquement, hein. Le 1 il vient vraiment sur un gros temps fort lorientais. Et quand eux ne marquent, enfin non pas ce penalty là, ils marquent pas sur leur temps fort. Après, en deuxième mi-temps, je trouve qu'ils sont quand même essoufflés et que nous, on était un peu plus dans la maîtrise. Alors, moins à notre avantage que d'habitude, peut-être, mais on était beaucoup moins inquiétés. En tout cas, il y a eu un réajustement tactique, on a mieux verrouillé à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, on est revenu un peu plus dans le confort et on a moins subi que ce gros temps faible-là qu'on a relativement assez peu vu au final, hein, à part contre le top 14 contre Lyon, par exemple, où on avait beaucoup subi. Ouais. Mais là, c'est l'une des premières fois où on subit autant contre une équipe de plus petite cylindrée. Mais c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils sont 17e ou 18e de Ligue 1, hein, Lorient, c'est qu'ils ne concrétisent pas leur temps fort et malheureusement, ils en sont à ces classements-là parce que dans le jeu, c'est bien plus intéressant que d'autres équipes qu'on a vues.
Et je ne sais pas si tu avais cette stat à Maury, mais c'est la 5e meilleure équipe de 2021, Lorient. Donc, ils font une deuxième partie de championnat beaucoup plus intéressante que la première. C'est aussi pour ça que le maintien peut passer par là. Tu as parlé, Amaury, d'une ouverture du score logique du RC Lens, on rappelle, sur pénalty suite à une faute provoquée par Corentin Jean. Je dis bien provoquée parce que j'ai envie de revenir sur cette occasion. Pour moi, en tant que supporter lensois, j'ai vu cette occasion et je me suis dit, cette action, pour moi, il n'y a pas pénalty. Vraiment, pour moi, Corentin Jean vient chercher... est un petit filou quoi sur le coup, il vient chercher vraiment la faute et à aucun moment le l'orienter peut faire autre chose à mes yeux. Pour moi c'est quelque chose qui doit se voir à la VAR et pour moi c'est pas une action qui mérite un pénalty pour le RC Lens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? J'ai vu Greg semblait ne pas être d'accord. Enfin, une petite moue, Greg.
Alors moi autant sur l'action que où Mofi se fait toucher par Michelin au moment de la frappe, je pense que si il vrille complètement sa frappe et qu'il l'envoie en tribune de la cour, tout le monde dit on revoit, il y a penalty et je pense qu'il y a penalty. Voilà, pour moi il y a même pas photo. Ouais. C'est un vrai tournant et j'ai vu que Loïc Ferry, le président de Lorient, en parlait. Il se faisait un peu vanner sur les réseaux sociaux là-dessus, mais il a complètement raison. C'est quand même un tournant du match, un partout dans un moment fort. Ouais. Pour moi il y a penalty. Par contre sur Corentin Jean, je peux pas être d'accord avec toi parce que oui, il touche le ballon juste avant le contact, mais c'est le jeu des attaquants d'aller chercher ce moment de rupture et de mettre le défenseur en difficulté sur ce genre de ballon. Il sent qu'il est un peu avant, peut-être un peu juste, peut-être qu'il se laisse un peu tomber, mais il est touché dans la surface.
Mais c'est pas du football. À aucun moment il cherche à marquer. Corentin Jean, il cherche juste le penalty quoi.
Moi je veux bien revenir. Vas-y, pardon Greg, fini.
Non, je suis, enfin Jérôme le dira, mais ça fait partie du foot malheureusement. C'est cette part de vice qui fait aussi des fois des différences, mais le vice c'est toujours vu de manière un peu péjorative, mais là c'est même pas du vice, c'est de l'intelligence. Il sent qu'il est juste un peu en avance, il peut pas faire grand chose de plus, il pousse le ballon, il se fait toucher et je pense qu'il se fait vraiment toucher, il tombe, penalty et ça fait partie du jeu. On peut pas dire qu'il simule, il simule pas, il va chercher la faute. Et ça fait partie du jeu.
Mais est-ce que c'est pas un vrai problème, et je pense que Jérôme, tu pourras un peu me répondre, c'est qu'on a pour moi deux cas de figure, je sais pas si t'as vu les occasions d'hier du coup de Jean et de Ben Yedder aussi contre Monaco, c'est que les attaquants qui cherchent le penalty ont leur penalty, et Mofi qui cherche à marquer le but, donc qui tire quand même, a pas son penalty.
C'est pas un vrai problème
de fond, et qu'on est sur un vrai problème là concernant l'arbitrage, je sais pas si t'as vu ça Jérôme.
En tout cas, oui, si on prend l'exemple des deux ans où Corentin Jean avec son gabarit, joue hyper bien le jeu, on ne peut pas dire que c'est de la triche, c'est du vice. En fait, il joue l'action avec son gabarit sans qu'il ait un peu en retard pour récupérer le ballon. Et j'ai envie de dire, c'est limite bien joué. Après, l'autre, c'est sûr que l'orienté, il veut jouer l'action jusqu'au bout sans tomber. Et au final, on s'aperçoit qu'il n'est pas, pas récompensé de ça. Donc, mais bon, sur le coup, on va dire qu'il a fait preuve de vice et ça fait partie du jeu aussi. Après, c'est pas simulé non plus. Il est allé chercher la faute quand même.
Et pour le coup, là, sur l'action de Lorient, on peut parler d'une vraie erreur d'arbitrage, même si Monsieur Vatelier, hier, a eu le mérite de laisser jouer. Régulièrement, il sifflait pas. Il y avait pas mal de situations au début de match où il a fait le choix d'être un peu plus libertaire dans son arbitrage. Antoine, toi, est-ce que tu trouves que ce penalty, comme je disais, est un peu...
Moi, je suis un peu sur la même ligne que Greg et Jérôme, sur le fait qu'en fait, tu joues le jeu, tu as un gabarit... plus petit, donc forcément tu débordes, tu pousses le ballon quand il faut, le défenseur met le pied, il y a contact. Le nombre de fois où on s'est fait siffler des pénalties, où on a aussi obtenu des pénalties sur des contacts dans les surfaces. Bon voilà. Après, pour revenir à Mofi, je pense qu'effectivement il peut y avoir un pénalty, il y aurait absolument pas scandale. Maintenant, Mofi aussi, c'est un gabarit qui est beaucoup plus puissant que Jean, et ça aurait peut-être fait bizarre de voir Mofi s'écrouler sur entre guillemets un tacle. Même si, de la même façon, il y a un contact dans la surface qui peut être sanctionné.
Et pour moi, c'est un arbitrage FIFA 2021, tu sais, parce que vu qu'il a pu faire sa frappe, on décide de ne plus revenir au début de l'action finalement où il se fait faucher.
Ouais, je sais pas. Moi, en fait, j'avoue que j'ai un peu de mal à analyser toutes ces situations parce qu'en gros, je me dis il y a autant de scénarios que de cas que, enfin, c'est hyper compliqué. Bon, là, ça nous a souri. Je veux dire, tant pis pour eux, quoi.
Ouais, bah clairement, hein, moi j'étais très content, et même pour revenir à l'action de Corentin Jean, je me suis dit bien joué, mais voilà, je trouve que vraiment à aucun moment Corentin Jean cherche à marquer, il cherche uniquement à avoir le penalty, et je me dis qu'un jour ou l'autre la VAR essaiera de repérer ces situations là, mais pour l'instant on est un peu dans
ou ça. Alors elle disparaîtra et ce sera pas mal aussi, Thomas, hein.
Ouais,
mais tu vois, on parle de tu vois, Jean il joue bien le coup, tu vois, c'est à l'image de son match, c'est-à-dire qu'il est filou sur cette action et puis il est extrêmement malin sur sa petite feinte. En fait, je trouve que les deux vont assez bien ensemble. Il a fait un match malin, Corentin Jean, je trouve, sur la première mi-temps.
Allez, on en reparlera du match de Corentin Jean parce que c'est il y a eu des bonnes surprises hier, mais c'est peut-être la bonne surprise du match d'hier. On va revenir justement sur la titularisation de Corentin et d'autres. On va parler de la gestion de Francaise, de ses cas de Covid, plus la blessure de Sotoka. Un match qui n'était pas évident à préparer, en tout cas une composition qui n'était pas évidente à aligner. Est-ce que vous trouvez que Francaise a parfaitement répondu à cette situation très particulière au RC Lens? Alors je parle d'un coach à un coach, Amaury, est-ce que tu trouves que Francaise a parfaitement répondu?
Mais vu la victoire, on est obligé de une nouvelle fois
s'incliner,
de complimenter Francaise et de s'incliner complètement. Moi j'avais très envie de voir Clément Michelin dans une défense à 3 de par la prestation qu'il avait déjà fait auparavant, on l'a vu, qui s'est montré plutôt à son avantage, moi je trouve, en tout cas sur le match.
D'après la Voix des Sports, oui, d'après l'équipe, non.
Voilà. Et ça créera des débats et c'est parfait, mais moi je trouve qu'il a vraiment répondu. Il a apporté de la vitesse à ce trio là et c'était important pour compenser aussi parfois Steven Fortes, qui n'est pas non plus le plus rapide du match, même s'il a il a fait son match, et c'est pas du tout pour l'incriminer lui, mais Clément Michelin très bien dans la défense à 3, et Corentin Jean, Franck S parlait de lui pour apporter de la vitesse, et on parlait de ce penalty, et on est obligé de constater que ça a été un choix réussi puisque c'est de par sa vitesse qu'il va chercher ce penalty là, et donc ça a fonctionné. C'est deux profils complètement différents par rapport à Banza. Il a voulu apporter la vitesse. Il savait que la défense de Lorient pouvait avoir ce point faible là, et notamment la porte.
Ouais.
Et on marque grâce à ça. Donc oui, forcément bien joué, coach.
Toi, Jérôme, hors antenne, avant, tu nous parlais d'une équipe qui t'impressionnait cette année par le fait que dès qu'on fait un petit peu de rotation, bah, ça suit quand même, enfin, d'un vrai groupe finalement.
Ouais, c'est ce qu'on peut ressortir à Francaise, qui est novice, on va dire, pour la Ligue 1, qui a repris Lens courant de saison dernière, mais là qui on va dire qui débute en Ligue 1. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire.
Ouais.
Alors il y a aussi le recrutement qui a été hyper judicieux, hyper juste, mais on s'aperçoit que là, tout au long de la saison, ça fait preuve de régularité. Les joueurs qui rentrent, qui sortent, il y a 2-3 rotations à chaque match, et on voit que l'équipe reste toujours performante. Qu'elle reste régulière dans la performance, c'est ça le plus dur. Donc là, ils sont cinquièmes, bravo à eux, parce qu'ils démontrent de match en match d'une la compétence du coach et de son staff, et surtout les joueurs qui répondent présents à ce niveau-là.
On a vu sur la célébration de la victoire hier soir, Francaise, des images dans les vestiaires, où il s'est réjoui d'avoir un groupe. Greg, tu confirmes ça, ce côté oui, c'est confirmé avec le match d'hier qu'effectivement on a un groupe.
Non, mais au-delà du match d'hier, évidemment. Comment un mec comme Corentin Jean, la dernière fois qu'il a joué, c'était au janvier-février à Nantes en Coupe de France, où il avait été bon.
Je me permets de te couper, Greg, dans ton instant. Je ne sais pas si tu as entendu à la conférence de presse hier du match de Rennes, quand ils ont su qu'il y avait un but de Corentin Jean, ils se sont littéralement foutus de sa gueule. Je sais pas si t'as entendu ce magnéto qui était incroyable, en disant quoi, Corentin Jean, mais il a quel âge, Corentin Jean? Je savais même pas qu'il était encore en Ligue 1. Il a marqué quand la dernière fois qu'il a marqué? J'avais pas d'enfant. Vraiment, c'est un magnéto incroyable de irrespectueux au possible, hein, mais voilà, je voulais le mentionner parce que j'ai entendu ça hier en écoutant RMC. J'ai vraiment halluciné. Voilà, Greg.
Ouais, mais justement, mais d'ailleurs, il est pas si vieux que ça, il doit avoir 25 ans, Corentin.
25 ans, Corentin Jean.
Donc, je pense sa carrière, elle est pas encore derrière lui. Mais tout ça pour dire que c'est un exemple type de ce qu'a réussi à faire le RC Lens cette année. Et je pense que Jérôme pourra le dire, c'est pas si facile de garder des joueurs concernés aussi longtemps quand on joue pas, quand on est bon, parce que je ramenais sur Je revenais sur le match à Nantes où il avait joué en Coupe de France, où Lens s'était imposé 4-2, où il avait quand même mis deux buts, une passe décisive pour Kalimuendo. Il avait été assez extraordinaire pour un mec qui n'avait pas joué depuis longtemps. Là, il rejoue. Il avait joué au Red Star aussi en Coupe de France, où il avait d'ailleurs donné un ballon décisif à Cheikh Doucouré. Entre deux, il ne rejoue pas. Et là, vu les circonstances, il est titulaire. Au bout d'une mi-temps, et même le but qu'il met, parce que moi je veux bien, mais la petite feinte de frappe.
Excellent.
Quand t'attends une occasion en Ligue 1, il n'avait pas marqué en Ligue 1 cette année parce qu'il joue quand même assez peu. Quand t'attends de marquer, t'as un ballon qui est là dans les 6 mètres, t'as certainement qu'une envie, c'est d'envoyer un scud. Et lui, non, il a l'intelligence de faire feinte de frappe, la remettre sur tranquillement pour mettre dans le. Donc voilà, donc je pense que tout ça, ça dit simplement comment Franck Hez a réussi. Même les joueurs qui jouent pas sont hyper concernés. Je veux dire, Michelin, ça fait évidemment qu'il doit être frustré. Clément Michelin, c'est un bon joueur de Ligue 1 qui malheureusement dans son couloir est tombé sur Jonathan Clauss qui est quand même la révélation peut-être de la Ligue 1. Il peut pas jouer, il est souvent, il rentre souvent en fin de match. Ça l'a pas empêché d'être passeur décisif à Angers à la dernière minute, d'être passeur décisif à Saint-Étienne sur le but de David Pereira da Costa. Il joue hier dans un registre qui est pas du tout le sien, qui est quand même tout sauf dans le couloir droit. Hier, il est axial gauche dans une défense à 3 dans un système qu'il connaît pas beaucoup. Et pourtant, il est à bloc. On sent que tous les joueurs de ce groupe ont. Alors, c'est aussi le fait des joueurs. C'est pas que le fait du staff. C'est-à-dire que tu as des joueurs intelligents qui sont tous mis au diapason. Mais ce qu'a réussi à faire le Racing Club de Lens et son staff cette année, et notamment Franck Hez, c'est de concerner tout le monde. Hier, les gamins, quand ils rentrent, le petit Pereira da Costa, il a peut-être, alors évidemment, l'équipe elle mène 3-1, tout ce qu'on veut, mais tous les joueurs optimisent totalement leur temps de jeu, quel qu'il soit. Simon Banza, il aurait pu être frustré hier de pas être titulaire vu les absences. Et pourtant, son entrée, bah, au-delà du penalty et du but qu'il marque, dans les déplacements, dans l'envie d'aller cogner dans les duels, c'est quand même hyper intéressant pour des mecs qui sont quand même bordurés, entre guillemets, parce que c'est pas du tout le terme, mais en tout cas, qui ont peu de temps de jeu. À chaque fois, les mecs, ils sont bons, quoi. Kalimuendo, quand il joue, il est remplaçant Kalimuendo à Angers, alors qu'il est quand même marche sur l'eau. Et ben, il rentre 10 minutes, il marque, et surtout, tu les sens tous concernés à la récupération du ballon aussi. C'est hyper important dans les moments difficiles. Donc, la grande force de cette équipe, c'est vraiment un groupe. Et ce qu'a dit Franck Hez hier dans le vestiaire, je pense qu'on l'a vraiment vu sur le terrain hier encore, quoi, dans un contexte très, très particulier.
Et pour donner deux exemples par rapport à ce que tu dis, Greg, hein, je trouve que Simon Banza, cette année, c'est un bon témoin de comment Franck Hez a fait évoluer le groupe et a réussi à concerner tout le monde. C'est que Simon Banza a démarré sa saison peut-être un peu en dilettante, un peu de manière nonchalante, et on sent de plus en plus qu'il est au diapason de l'équipe, même sur ses entrées, sur ses titularisations. Et tu le dis souvent, Greg, en tant qu'observateur avisé, tu as excellence que Corentin Jean est un des meilleurs finisseurs du groupe. Et hier, justement, sur son but, il l'a complètement prouvé, quoi. C'est quelqu'un devant le but qui ne tremble pas beaucoup. Antoine, toi, sur la gestion du groupe de Franck Hez.
Ouais, bah, enfin, tout a été dit, je pense, avec brio. J'ai l'impression que ça tourne, ça fonctionne. En plus, je trouve Hez est surprenant. Il fait de l'ingénierie. Il va te mettre un Michelin défenseur central gauche. Ça fonctionne. Il y a quelque chose qui est assez surprenant. Ça tourne parfaitement bien. On a l'impression qu'il y a une forme de mécanique qui ne peut pas s'arrêter, enfin du moins qui semble être inarrêtable, ça donne aussi beaucoup l'impression, bon, ça c'est des choses dont on discute en off ou qu'on a déjà mentionné ici, c'est aussi le fait que en gros il y a un groupe qui joue le jeu à fond, que les entraînements ça a l'air d'être hyper intense et peut-être plus intense que certains matchs, et qu'en fait on peut être surpris effectivement de voir un Corentin Jean sortir un match comme il a sorti, même si bon, il est sorti à l'heure de jeu, mais pendant tout le temps où il a été sur le terrain, il a mis de l'intensité, de la même façon que Kalimuendo, qu'on avait un peu moins vu ces dernières semaines, il était là, il était bien placé sur le corner, ça prouve qu'il est lucide, en fait, ils ont les automatismes, ils ont les bons réflexes à chaque fois, ils se positionnent bien certainement, parce que aussi en match d'entraînement ou aux entraînements, en fait, ils sont tous à 100% dans le projet et voilà, il y a pas de secret. Hein. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on pourrait continuer cette rotation et potentiellement espérer des résultats.
Je vais refaire rapidement un point sur quelque chose qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, mais on l'a vu beaucoup hein, sur les réseaux sociaux ou dans les témoignages sur le match, les Lorientais se sentent un peu floués sur ce match. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi les Lorientais se sentent floués? Peut-être Amaury pour commencer.
Oui, bah oui, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, il y a penalty et à un moment hyper important du match. Et forcément qu'on peut se sentir floué, surtout dans leur position avec le contexte qu'on connaît. En fait, pour moi, Lorient, c'est un peu l'anti-Lens dans le sens où ils prônent le jeu autant qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas les résultats. Et forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Mais la diversion facile serait de se dire pourquoi on bétonne pas et au moins on serait plus solide, on prendrait moins de risques et on gagnerait plus de matchs. Mais c'est une vision qui me plaît pas des masses puisque bah, regardez Nantes, hein, ils jouent pas au foot et pour autant ils sont quand même dans la charrette. Donc c'est compliqué pour Lorient, mais honnêtement quand je les vois jouer hier, j'ai vraiment pas envie qu'ils descendent de une et de deux, je pense qu'ils descendront pas puisque qu'ils proposent quand même des choses intéressantes.
Oui, et puis il y a des très jolis joueurs à Lorient. Je me suis pas assez intéressé au chat aujourd'hui, donc je vais en vrac avant de donner la parole à Jérôme, donner des petits messages. Donc on a Pascal justement qui dit petit coucou à Jérôme qui a porté dignement nos couleurs. Merci d'être dans l'émission Jérôme. Alors penalty sur Corentin, on a les gens ne sont pas trop d'accord avec moi sur le penalty et des gens ont une théorie sur l'arbitrage hier de Monsieur Vatelier, comme quoi il se rattraperait d'un match où il a fait des erreurs. On sait tous de face à Reims, on sait tous de quoi il parle. Voilà. Donc deux pénalties, c'est pour moi. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit aussi simple que ça.
Mais Thomas, justement, ouais. Jérôme, t'as été capitaine, toi. Un arbitre, vous connaissez tous avec les arbitres, évidemment. Un arbitre qui aurait fait une erreur imaginons à l'époque, face au RC Lens, parce que je rappelle que Monsieur Vatelier a oublié, évidemment, un penalty à Reims à la dernière seconde, qu'on aurait pu faire beaucoup cette année. Et est-ce que le rôle du capitaine, c'est pas de le rappeler un peu avant à l'arbitre, c'est-à-dire, la dernière fois, on se souvient un peu, est-ce que ça peut, c'est toujours une question un peu de mettre, c'est pas de mettre la pression, mais ça fait partie du jeu aussi. On parlait tout à l'heure de Corentin Jean qui se fait du vice. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de dire à lui, la dernière fois, il nous a fait ça, monsieur, je vous rappelle que la dernière fois, non, ça t'est déjà arrivé ou pas?
Et je me permets de compléter
déjà
la
arrivé
question
aussi.
De Greg.
Ouais, pardon.
Un capitaine corse.
Qui s'appellerait Yannick.
Ouais.
Non, mais ça fait partie du jeu aussi, quand on est capitaine, d'aller voir l'arbitre, de mettre un peu la pression. Alors, peut-être pas d'un match à l'autre, mais souvent dans le même match, il y a eu des erreurs, ou à la mi-temps, d'aller le voir et de. Alors, je ne sais pas s'il va compenser, mais c'est en tout cas faire en sorte que peut-être des décisions soient un peu plus en notre faveur s'il y a des fautes. Après, de la compenser, c'est bon, c'est assez rare.
Tu te souviens d'un match où tu penses parce que on n'a pas l'impression que tu dois pas être un grand, tu vois, t'es beaucoup moins véhément que d'autres capitaines. Enfin, que t'étais, moi, t'es quand même quelqu'un de très posé. Enfin, c'est l'image que tu donnes. Peut-être que c'est pas le cas. Moi, j'ai jamais eu la chance de jouer contre toi sur un terrain de football. Mais mais voilà. Et est-ce que tu te souviens d'un match où tu dis ouais, peut-être que lui, à un moment donné, ça fait basculer.
Non. Ça m'est jamais arrivé.
Est-ce que tu te souviens d'un capitaine adverse qui avait cette capacité lui à mettre une pression
Ouais, il y en a. Après, des fois, c'est pas le capitaine, hein, c'est d'autres joueurs qui ont un peu plus de métier, d'expérience, de vis, qui vont aller voir l'arbitre et qui vont un peu appuyer là où ça peut basculer. Mais après, en tout cas, je voulais rebondir sur une chose importante. C'est vrai que la notion de groupe, bon, c'est ce qui ressort en tout cas de l'équipe de Lens, et c'est surtout. Ça appartient à ceux qui jouent pas ou peu. L'équilibre, il est là, en fait. Et là, on le voit avec Lens où les garçons, ben, parfois, qui ont moins de temps de jeu, mais qui restent convaincants, performants quand on fait appel à eux. Et je pense que là, il doit avoir vraiment un lien avec le coach, des discussions. Et je pense que c'est là aussi où la réussite de Lens cette année, elle est là aussi.
Ouais, on a ce sentiment-là. Et pour Jérôme, pour que tu saches, nous, au début de la saison, dans l'émission, on parlait souvent de cette peur d'avoir un 11 titulaire peut-être fort et de pas avoir un groupe assez étoffé. Et là, on va de surprise en surprise, de match en match, en se disant effectivement, il y a au-delà d'un groupe, il y a un état d'esprit qui fait qu'on arrive à sortir des matchs comme ça hier, malgré l'absence de certains joueurs clés. Greg, pour revenir sur Lorient, est-ce que toi, tu comprends que Lorient se sente floué d'un match comme hier?
Bah, je pense que, alors, tu parlais de joueurs clés, on parle quand même pas de n'importe qui hier. Il manquait Ganago, Badé, Medina, Sotoka, qui est quand même un joueur titulaire indiscutable, Fofana, qui était l'homme fort, et Tony Mauricio, qui est un joueur qui joue un peu moins, bien sûr, mais ça fait quand même six grosses absences, et pourtant, donc forcément, les Lorientais, ils se sont dit, il y a un coup à faire à Lens quand même ce week-end. T'as quand même un gros contingent de mecs importants qui est pas là. Ils ont fait un match qui est quand même vraiment de qualité. Clairement. Je pense qu'ils se sont plombés quand même. On oublie que défensivement, ils ont quand même été parfois très lâches parce que Lens, à chaque fois que. Alors, il y a eu des très belles combinaisons hein, du Racing hein, qui a eu du mal tactiquement aussi parfois, parce que c'est normal, il manquait d'automatisme et c'était pas l'idée au départ de la semaine. Ce qui avait été préparé, c'était évidemment c'était pas ce système-là du tout. Oui. Là, c'est un peu dû improviser. Mais évidemment que quand on voit le match de l'Orienté hier, qui partent avec une valise de 4 buts à 1, avec notamment un gros temps fort à 1 partout, où ils auraient certainement dû basculer, en tout cas, ils auraient pu basculer à 2-1 à la mi-temps, et c'est l'inverse qui se produit. Quand on est 17e du championnat de France, c'est évidemment des matchs qu'on rage. Et Jérôme, moi je me souviens l'année où Lens descend, voilà, parce que Jérôme a connu évidemment la remontée en 2014, mais l'année d'après, il y a eu plein de matchs comme ça. Moi je me souviens d'un match à Saint-Étienne par exemple où il y a un 3 partout, vraiment où Lens renverse le match à 3-2 et reprend un but de Mevlüt Erdin, si je me trompe pas, en fin de match. C'est des points quand on est en galère qu'on donne tout. Alors il y avait ce jour-là, il y avait pas forcément une domination comme les Lorientais ont pu l'avoir hier par moment, mais vraiment c'est terrible quand on a l'impression d'avoir tout donné et qu'on a besoin de points pour sauver et que c'est compliqué. Jérôme, j'imagine que c'est ce qui crée la frustration.
Ouais, là, c'est vrai que quand on connaît des saisons comme ça, quand ça doit basculer en notre faveur, ben c'est pas le cas, parce qu'à un moment donné, alors sur la durée, on va dire que c'est pas à la faute à pas de chance, parce qu'à un moment donné, sur la durée, c'est-à-dire que nous cette année-là, c'était qu'on avait pas pu recruter, l'effectif il était plutôt jeune, donc on a manqué de maturité, d'expérience à ce niveau-là. Donc sur la durée, on peut pas dire que, mais sur certains matchs, on aurait pu faire basculer en notre faveur si on avait fait preuve un peu plus de qualité, ouais. Si on avait pu avoir des recrues, on va dire, je me souviens cette année-là, ça aurait été important.
Ouais. Et en plus, on avait vu, nous, dans les rumeurs de transfert de cette année-là, qu'il y avait peut-être une petite équipe sympa qui se préparait. Mais c'est clair que vous n'aviez pas les armes. On va juste conclure sur la question de Lorient, peut-être avec Antoine rapidement sur...
Non, mais totalement, le score il est hyper lourd pour Lorient. C'est clair que bon, tout a été dit aussi à la mi-temps, s'il bascule devant, s'il n'y a rien de scandaleux... Après, moi, j'ai quand même noté que la deuxième mi-temps, c'est pour ça tout à l'heure, quand j'introduisais, je trouvais qu'on avait plutôt subi, effectivement, entre la 25e et la 45e minute. Mais j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, on avait subi, mais plus on avait laissé le jeu aux Lorientais. Donc,
ouais.
Moi, j'ai noté la dernière grosse occasion lorientaise de Mofi à la 59e, quand il prend de vitesse Michelin, et que Michelin fait un super retour pour contrer la frappe du Nigérian. Mais derrière, en fait, il n'y a plus su, entre guillemets... sur la deuxième mi-temps, Lorient a 70% de temps la balle, mais frappe moins au but que Lens. Donc en fait, il y a quand même eu, je pense, une forme de avec l'entrée de Pereira da Costa, une forme de rééquilibrage du milieu de terrain qui a fait qu'on a subi, mais j'ai l'impression que c'était plus un choix de subir. Donc globalement, on peut dire que oui, Lorient a surdominé Lens pendant 15 minutes en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, aurait pu encore nous titiller et inscrire un but, mais que globalement, la deuxième mi-temps, j'ai trouvé quand même que elle était globalement maîtrisée, avec en plus cet effectif amputé de 5 joueurs là avec le Covid.
Alors sur le chat, on répond un peu à ces questions-là. Johan qui nous dit, si on avait tous nos titulaires, ils en prenaient 6 ou 7.
Bon.
Pourquoi pas faisons-nous plaisir, de toute façon, on a gagné 4. Ils sont frustrés, mais c'est Thomas qui dit ça, ils sont frustrés, mais sur le but de Kalimuendo, le corner tombe dans les 6 mètres, donc c'est le gardien qui se déchire, donc rien à redire, effectivement, peut-être sur ce but-là. Et Maxime Lombard qui nous dit, le maillot sans or irait comme un gant à Wissa. Bon, déjà qu'on leur a mis 4-1 hier, on va peut-être pas non plus leur prendre leurs attaquants, mais pourquoi pas. Je vais aller faire une transition, mais je vais pas m'embêter à faire de transition, parce que parfois, nos auditeurs les font. Et là, Julien, sur le chat, dit bonne chance pour trouver des cartons rouges, tant le match était maîtrisé hier. Et bien pourtant, on va passer au carton rouge dans cette émission. Messieurs, je vais vous demander de donner un carton rouge sur une action, un fait de jeu, un joueur, un moment, une minute, une couleur. Un carton rouge sur ce qui s'est passé hier. Et peut-être Greg, pour commencer, ton carton rouge sur hier.
Merci Thomas. Écoutez, alors j'ai passé toute ma journée à essayer d'en trouver un carton rouge, mais c'est impossible en tout cas d'en trouver. Enfin, on a vu un bon match de Ligue 1. Alors, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais moi j'ai encore vu un bon match de Ligue 1 déjà, ça c'est important. On a toujours cette faculté à taper sur la Ligue 1. Je l'avais dit la semaine dernière sur le match de Lyon, où j'avais été surpris de certains commentaires autour du match et qui avaient été bons. Bah là, c'est la même chose. Donc, pas de carton rouge. C'est vrai que j'ai pas de carton rouge, si ce n'est que on aurait aimé un peu plus de maîtrise par moment, mais de cette équipe de Lens. Mais le contexte de la préparation de ce match, franchement, on peut pas le, on peut pas mettre ça de côté. Enfin, quand vous perdez 5 ou 6 joueurs à 3 matchs, à 3 jours du match, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'était un match qui était vraiment piégeux sur le papier, parce que Lorient, c'est un 17e qui n'était pas vraiment un 17e, qui restait. C'est quand même une équipe qui a pris plus de points en 2021 que le Racing Club de Lens avant le match hier. Ouais. Ce qui est quand même pas. Enfin voilà, et quand on voit ce que fait Lens depuis quelques mois, ça dit tout de la forme lorientaise quand même. Non, moi je franchement, j'ai pas carton rouge. Le seul qu'on pourrait dire, c'est peut-être cette victoire rennaise hier pour le vu du Racing un peu à l'arrache, et donc le niveau des Nantais qui était un peu dégueulasse dans ce derby. Et c'est vrai que s'ils avaient pu tenir le 0-0,
je sais plus où ils sont les Nantais, mais ils sont pas en Ligue 1. Je sais pas où ils sont, quoi. Il y a Nantes et Bordeaux, ils doivent faire un club.
Un jour devant, non?
Non, mais c'est vrai. Mais voilà, clairement, s'ils avaient fait 0-0, tenu un 0-0 hier dans le derby, c'était encore une meilleure opération pour le Racing. Mais que voulez-vous qu'on sorte de mauvais sur un match comme ça? C'est très compliqué.
Mais Nantes, c'est incroyable. Hein. Plus personne ne regarde les matchs de Nantes. Même les Nantais ne regardent plus. Je dis clairement, avec Bordeaux, ils doivent faire un club, là. Nantes et Bordeaux, je sais pas. Enfin, je sais pas, ils auraient de quoi discuter le week-end. Je vais faire un carton rouge pour une fois, alors que voilà, c'est pas mon rôle normalement. À l'équipe, le journal L'Équipe que j'aime pourtant tant. Qui a mis 4 sur 10 à Clément Michelin dans le papier. Clairement, quand on note les joueurs, Greg, tu pourras en parler peut-être mieux que moi, parce que toi, tu le fais régulièrement. Mais, on prend en compte un match, mais on prend en compte un contexte aussi. Alors, avec le match qu'a fait Clément Michelin hier, on peut pas mettre décemment 4 à un joueur qui ne joue pas à son poste, qui ne joue pas de la saison, et qui en plus fait une partition plus que correcte hier. J'ai pas compris cette note, et sachant que la Voix des Sports a mis 6 sur 10 à Michelin.
On a mis 6, ouais. Ouais, mais c'est pareil, mais bon, c'est toujours la question des notes, et je l'ai dit 10 fois depuis le début depuis qu'on fait cette émission. C'est qu'il n'y a rien de plus subjectif, que c'est compliqué, qu'on a tous une vision hyper différente. Je vais pas taper sur ce qu'ont mis mes confrères, parce que moi aussi, mais certainement arrivé des fois de sous-noter ou surnoter les joueurs.
Mais si donc, tu veux, je le fais, hein.
mais vas-y, tape sur la presse, vas-y, amuse-toi, Antoine. En plus, c'est sûr que toi, tu dois voir là-bas en Espagne quand ils mettent des notes et qu'ils mettent des observations, ils sont certainement moins.
C'est sûr qu'ils n'ont pas parlé de Clément Michelin ici.
Ouais, ils en parlent très peu. Mais ça me permet de faire une transition, parce que je voulais pas demander de carton rouge à Jérôme hier, mais du coup, je profite de parler des notes pour demander à Jérôme, quand tu étais joueur, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait de voir la note que tu avais le lendemain dans le
Mais bien sûr. Mais bien sûr que oui.
C'est clair. On va pas se le cacher. C'est vrai qu'on regarde toujours. Après, comme on dit, il faut que ça soit pris dans le contexte. Il y a des personnes qui regardent pas le match, mais ils vont regarder l'équipe, ils vont dire, ah ouais, il a 3 ou 4. Voilà, c'est, mais quoi qu'il arrive, quand on est joueur, on fait attention à, d'une, aux notes et aux observations aussi. C'est, ça peut, des fois, faire perdre confiance à un joueur ou le galvaniser. Je veux dire, c'est assez important quand on est joueur.
Après, on a
assez de recul et on est conscient de savoir si on a fait un bon match ou pas. Mais ça reste important si c'est validé, on va dire, par une bonne note le lendemain sur l'équipe, par exemple.
Ouais, ça m'est arrivé, moi, que des joueurs soient vraiment peinés par ce qu'on a pu écrire. Et déjà, il faut dire les choses comme elles sont. On se trompe, et j'arrête pas de le dire. Nous, on a l'humilité. Moi, j'ai l'humilité, en tout cas, de me dire que des fois, on se trompe complètement dans un. Et ça arrive. Heureusement qu'on peut le. Mais Jérôme, par exemple, dans ton rôle de directeur sportif, par exemple, bon, là, évidemment, vos joueurs sont pas encore. Sont pas notés, mais. Est-ce que c'est l'aspect psychologique, forcément, est-ce que toi, t'as déjà vu dans ton vestiaire, alors pas forcément dans ton club, mais quand t'étais capitaine à Lens ou dans d'autres clubs, où t'as joué, des joueurs qui étaient vraiment hyper attentifs à ça, au point que ça pouvait impacter complètement ensuite leur confiance et leur manière de jouer?
Alors, leur manière de jouer, non, mais des garçons qui peuvent être sensibles à ça, sûrement, mais en tout cas, on le montrait pas. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de faire preuve de fragilité, mais au contraire, on a envie d'être costaud. Et voilà, on dit qu'on le survole, mais on regarde quand même. Après, voilà, ça fait partie du métier, il faut l'accepter. Hein. Et c'est vrai que déjà, si on a fait un mauvais match et que le lendemain, on a 2 ou 3 avec une observation dans les flops et tout, c'est sûr qu'on reste des hommes. Ça fait toujours un peu mal. Mais il faut se redresser, repartir au combat le lundi, c'est comme ça.
Hein. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de te dire, mais les journalistes, ils comprennent vraiment rien?
Surtout dans la Voix du Sport avec un certain Greg Lallemand.
Greg L, pour le laisser anonyme.
Non, j'essaie de prendre un peu de recul sur ça. Après, c'est sûr que le week-end, il est toujours mieux si on a fait un bon match et qu'on a une bonne note. Mais Le dimanche, des fois, il est conditionné. D'une, si on a perdu, si on n'a pas été bon, c'est sûr qu'après, si on s'est mangé un 2 ou 3 par la presse, voilà, le dimanche, il n'a pas la même saveur. Hein.
Je suis sûr que hier, quand parce que Jérôme, je ne sais pas si tu sais, mais Jonathan Clauss du RC Lens est le meilleur joueur aux notations d'équipe de Ligue 1. Ouais, tu l'avais vu. Et du coup,
j'ai en tête.
Je suis sûr que hier, au moment de sa sortie, il s'est dit merde, j'ai pas fait ma petite passe décisive ou mon petit but qui fait que je vais peut-être avoir un 5. Et je suis sûr que sa déception, elle venait un peu de là. Après, voilà, je suis moi, j'ai jamais été joueur pro. En tout cas, je vais lire les cartons rouges dans le chat. On a carton rouge au Covid-19 par Julien, évidemment, qui en tâche notre groupe. On a Sturquay qui donne quand même son carton rouge à Michelin, qu'il a trouvé dépassé. Mais j'ai aussi des commentaires inverses qui disent qu'au contraire, Michelin a vraiment été bon. On va demander le carton rouge Amaury, peut-être sur le match d'hier.
Ouais, moi j'ai un petit carton rouge, Thomas. C'est alors même si ça s'explique, hein, on le dira après, mais sur notre solidité défensive sur les coups de pied arrêtés.
Ouais.
On avait Enzo Lefebvre en face qui tirait hyper bien ses corners et ses coups de pied arrêtés, et à chaque fois c'était dangereux. On sait que c'est pas le plus gros point fort de Jean-Louis Deca, les sorties aériennes, même s'il fait depuis un mois des matchs qui sont très bons. Mais à chaque corner, à chaque coup de pied arrêté, je trouve qu'on était en danger. Alors forcément, il n'y avait pas Abadé, il n'y avait pas même Sotoka qui est hyper présent sur les coups de pied arrêtés défensifs. Il n'y avait pas Fofana qui sont quand même, on va dire, des joueurs assez imposants physiquement et qui nous aident dans le domaine aérien. Mais tu vois, à chaque fois, je stressais et même des coups. Enfin, du coup, moi, je pense que c'était l'une des plus grosses chances de prendre un but, c'était là-dessus.
Ouais.
Donc oui, ça s'explique, mais néanmoins, petit carton sur ce manque de solidité défensive sur nos coups de pied arrêtés.
Clairement, le but, c'est une vraie erreur défensive au-delà d'un bon geste. Enfin, c'est une vraie erreur sur ce but. Antoine, ton carton.
Et puis, Enzo Lefebvre, on peut lui mettre un petit maillot lensois aussi en doublure de Kakuta. Je le prends tous les jours.
En tout cas, gros respect à Enzo Lefebvre qui a joué hier alors qu'il avait perdu son papa la veille. C'est assez incroyable et gros coup de chapeau à lui, hein, clairement. Antoine? Ton carton.
Ouais, bah moi en fait c'est plus effectivement entre guillemets aux critiques un peu faciles, je trouve qui sont adressées à Clément Michelin, parce que c'est vrai qu'il a pas de chance, hein, que ce soit au poste de piston droit, il est face à un ovni close. Mm. Et puis hier, moi j'ai trouvé qu'il a été extrêmement intelligent. Alors forcément la première mi-temps elle est un peu hésitante par moments où on a pu voir des choses un petit peu compliqué. Et moi, je rebondis aussi sur ce qu'avait dit Franck Haise lors de l'interview qui était passée à la télé avec Frédéric, son nom m'échappe, où en fait, il avait beaucoup parlé de l'adaptabilité des joueurs. Et en fait, ça rejoint un peu cette question de rotation d'effectifs, etc. Et je trouve que c'est très intéressant de voir Michelin qui, au fur et à mesure du match, j'ai trouvé, est monté en puissance. Il a mis quelques minutes à rentrer dans son match, etc. Et puis il a plutôt bien fini, j'ai trouvé. Il a été décisif sur donc cette action de Mofi à l'heure de jeu. Et puis à la fin, j'ai trouvé qu'il avait des relances qui étaient propres, etc. Il s'est même un moment permis de tenter une frappe de loin, moi, qui est parti très haut dans le ciel. Mais j'ai trouvé qu'il était vraiment en train de prendre la mesure de son poste. Donc voilà. Donc moi, je mets vraiment un carton rouge à ces critiques un peu, je trouve, des fois trop faciles et trop dans l'instant. Trop dans l'immédiateté qui sont adressés à certains joueurs. Peut-être que Michelin se trouvera dans 2-3 matchs, mais là, en l'occurrence, hier, j'ai trouvé que c'était injuste de le pointer du doigt.
Et on va donner une note justement à Clément Michelin. J'ai décidé vraiment, là, c'est mon combat aujourd'hui.
T'as appelé Clément Michelin aujourd'hui ou quoi?
Je sais pas, je l'aime bien. Moi, je trouve ça incroyable, ces joueurs qui restent dans l'ombre alors qu'ils sont très bons. On le sait que Clément Michelin est un très bon joueur. Et voilà. Et puis au final, je pense un peu pareil de Corentin Jean quand je vois ses entrées cette saison. Du coup, je vais vous demander une note rapidement parce qu'on a pris un peu de retard sur notre de conducteur. Votre note sur Clément Michelin en petit tour de table, Amaury, ta note?
6, discret, efficace.
Discret, efficace. Jérôme, tu veux noter Clément Michelin?
Pas être crédible parce que j'ai pas regardé tout le match. Donc
c'est un 8 pour Jérôme. Jérôme, 8 à Clément Michelin. Antoine?
Ouais, bah, je mettrai un 6. Comme Greg.
Et Greg,
Greg des sports.
Toi, sur la voie des sports, t'as mis 6, Greg.
Enfin, je suis corporate, c'est pas moi qui ai fait les notes hier, mais je vais mettre 6, sinon je vais avoir mon collègue qui va m'appeler et me dire, tu m'as planté dans Culture Sawyer.
Richard Gott qui a mis les notes?
Ouais, c'est Richard, et moi, tu sais, je suis vachement langue de bois dans ces cas-là. Je suis un peu un joueur, en fait, dans ces cas-là. Très bonne note donnée par Richard Gott, mon collègue. Vraiment, je suis complètement derrière lui dans ce qu'il a fait.
Bon, salut. On salue Richard Gott, hein, qui fait avec toi un joli travail. Moi, vous me régalez tous les lundis matin. J'ai pas peur de le dire. Voilà, je suis sur mon petit iPad et je lis.
Tu nous mets des bonnes notes. Tu nous mets des bonnes notes.
À vous, je vous mettrai des notes qui n'atteindraient même pas le ciel. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. On passe tout de suite à la mi-temps et au quiz de Culture sans heure. On va jouer un petit peu. J'ai décidé aujourd'hui. J'étais content d'avoir Jérôme Lemoigne parmi nous, donc j'ai fait un quiz 100% Jérôme Lemoigne. J'ai prévu 10 questions liées à la carrière de Jérôme Lemoigne. Je vais faire un tour de table et il faudra y répondre. Et j'ai une envie, c'est que Greg Lallement perde ce quiz. Donc les questions tordues seront un peu pour lui. On va commencer avec. C'est vrai. On va commencer avec Amaury. Le nombre de buts marqués par Jérôme Lemoigne au RC Lens. Et non, c'était 3, Amaury. Du coup, tu perds, tu sors de.
Il a marqué à Tours, notamment. Je me souviens d'une grosse frappe à Tours.
Je vais.
La fameuse grosse frappe, ouais.
Et une tête à Angers.
Ah, exact.
Jérôme, je vais poser une question sur ta propre carrière, du coup, au RC Lens. Je t'en fais une un peu difficile. Je veux à 5 près le nombre de matchs que tu as fait au RC Lens. À 5 près.
Je dirais 105.
C'est 104, donc 104, ça passe, Jérôme.
T'as bien révisé, Jérôme.
Non, mais je me suis dit à peu près 30 matchs par saison, si on bon, un peu blessé. Enfin,
ouais, t'es méthodique. Coupe, voilà.
Ouais. Je vais poser ma question à Greg, donc clairement elle va être vicieuse. Greg, hein, faut t'y attendre. Jérôme Lemoigne a un titre dans sa carrière. Quel est ce titre?
Ouais.
Allez, je t'aide, il l'a eu en 2005. Je t'aide sur l'année.
2005?
Ouais.
La finale de la Ligue des Champions, c'est Liverpool cette année-là, donc c'est pas ça. 2005. Attends.
Ouais, c'est fini,
genre. Quoi, c'est fini. Doudou, c'est fini.
Moi, j'ai la réponse.
On a encore un an de confinement devant nous, j'ai tout le temps.
Moi, j'ai la réponse. Allez, vas-y.
Bah ouais, mais toi, t'es sur Wikipédia en Espagne.
Allez, je te donne, Jérôme joue à Toulon. Je t'aide quand même.
Il joue à Toulon. Bah alors, champion. C'est quoi, de la nationale ou du CFA à l'époque? Champion de CFA.
Oui, ça passe, c'est super. J'étais un peu.
Eh oui,
voilà. Antoine, le nombre de clubs pro dans lequel a joué Jérôme?
3.
Non, 5. Cannes, Toulon, Sedan, Lens et Ajaccio.
C'était pro Cannes à ce moment-là?
Ah oui, alors attends, je me trompe.
Cannes et Toulon, non.
Donc 3, enfin, pardon,
Cannes, on a perdu le statut pro, ouais.
Antoine, il est sur Wikipédia.
Ouais.
Attends.
Là, c'est l'animateur qui voilà. Bah, moi, j'ai fait Squeeze, c'est un quiz Wikipédia. Jérôme, à 2 près, le nombre de buts que tu as mis dans toute ta carrière.
Ouais, il a pas de masse, là, je dirais 15.
C'était 23, Jérôme, tu sors de ton propre quiz. Alors, Greg, malheureusement, c'est une question un peu calibrée pour toi, mais bon, je te la pose. Contre quel club Jérôme Lemoigne a inscrit son premier but en professionnel?
Son premier but en professionnel?
Ouais. Contre quel club il l'a inscrit?
C'est.
T'en souviens, Jérôme, j'imagine.
Donc, ça devait être avec Sedan, peut-être?
Ouais, c'est ça.
Oui. Donc, déjà, ça laisse beaucoup de possibilités. Je sais qu'il avait marqué face au Racing Club de Lens, je me souviens d'un 2 buts partout.
Ouais.
C'est le Racing Club Lensois 1906.
Eh ben oui, c'est ça. C'est
au moment où il te dit, Greg, c'est calibré pour toi, fais pas semblant de réfléchir, hein, tu es excellent.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, il est sympa, hein, Thomas, il veut te faire tomber, mais.
Ouais, là, j'ai été gentil.
Tranquillement,
Antoine, hein. En plus, Antoine, quand tu vas voir la question que je vais te poser,
la dernière fois que j'ai perdu, c'est la dernière fois qu'on a vu Hafiz Mamadov au Racing Club de Lens.
ça remonte. Antoine, je vais te demander la taille de Jérôme Lemoigne à 5 cm près. Et on le sait que dans la vie de Greg, c'est important 5 cm, mais en tout cas,
c'est clair.
Allez, 1m86.
C'est 88, tu restes. Je vais te poser la question, Greg, après son départ du GFC Ajaccio, dans quel club non professionnel a signé Jérôme Lemoigne en tant que joueur?
Si je ne me trompe pas, parce que je l'avais croisé à Arras sur un match à l'époque, je pense que c'était le Bastia Borgo.
Ouais, c'est ça.
Ah, Antoine, combien de saisons en Ligue 1 a disputé Jérôme Lemoigne dans toute sa carrière? Combien de saisons en Ligue 1?
Il y en a deux. Une avec Sedan, une avec Lens.
Et t'as oublié celle avec le Gazélec Ajaccio?
Ah.
C'est 3. Et du coup, Greg, pour valider ta victoire, de quelle année a-t-il été au RC Lens ? Année civile ?
Attends, faut pas que je me trompe, parce que c'est pas si simple. Ouais. Et j'aurais dit, alors 2012-2013, c'est sûr. 2012-2013, c'est notamment avec Pierre Valdivia qui est arrivé.
Il gagne du temps, je le connais, Greg.
Petite histoire de Pierre Valdivia, c'est que je vous explique l'anecdote vite fait parce qu'on a souvent.
Il gagne complètement beaucoup de temps là.
Moi, je vous raconte pas l'histoire, tant pis. On le fera quand
Pierre. Vas-y.
Après, allez.
Non, on le fera. Mais 3 saisons parce qu'il y a 2012-2013. 2013-2014. Avec cette montée, 2014-2015 avec ce n'importe quoi à Zéry, et donc c'est tout. Ça fait 3 ans, si tu veux, 3 saisons, je dirais 3.
Donc de quelle année à quelle année ?
Grossièrement de juin 2012 à juin 2015.
Voilà, c'est Greg qui gagne le quiz, j'aurais tout fait pour qu'il ne le gagne pas, mais malheureusement c'est Greg
vraiment
qui gagne
ce quiz.
Et on se retrouve juste après. Tout de suite, dans deuxième partie de l'émission, avec l'anecdote Pierre-Yves Valdivia. Voilà, c'est la deuxième partie de l'émission, il n'y a pas de transition, vous connaissez, c'est comme ça, Culture Sans Heure. Avant l'interview de Jérôme Lemoyne, alors, c'est quoi cette anecdote Pierre-Yves Valdivia ?
Non, bah alors Pierre-Yves Valdivia, moi j'apprends, encore dans l'histoire des recrutements, j'apprends qu'il arrive à la gare d'Arras un jour, personne ne savait qu'il allait signer, même. C'était un peu dans les tuyaux, mais il arrive de Lyon, parce qu'il est lyonnais, je crois, Pierre Galdia. Et donc, j'arrive à la gare d'Arras, parce que je crois savoir à quelle heure arrive son train. Et donc, je le vois sortir du TGV, puis je dis, tiens, Pierrick, et lui, il croit que je suis du club, en fait. Ouais, okay. Il me dit, ah, merci d'être venu me chercher et tout. Il me dit, non, en fait, je suis pas vraiment venu te chercher, parce que je travaille pas au RC Lens. Et là, je le sens un peu gêné. Il dit, ah non, je peux rien dire. Je dis, bon, voilà, on va pas se mentir. Je pense que tu vas à la Gaillette. Il a jamais voulu rien dire et il s'est marré. Il était attendu à la gare par quelqu'un du Racing Club de Lens. Mais voilà, il était prêt à me dire, ah, super, je suis content de signer ici, mais on a senti qu'il s'est,
d'accord.
Et donc voilà, c'est juste la petite anecdote parce que Pierre-Yves Valdivia était, lui aussi à Sedan aussi et avec Jérôme Lemoyne, c'était l'arrivée de la doublette sedanaise. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Voilà, c'est la petite anecdote qui est pas extraordinaire, mais qui vaut.
Non, mais j'en ferai pas un week-end, mais elle fait quand même toujours plaisir, Greg. Et on va passer donc à l'interview de Jérôme Lemoyne avec cette superbe introduction de Greg l'Allemand. Un questionnaire mitraillette qui m'a été proposé et écrit et confectionné par Antoine ici présent. Donc c'est simple, Jérôme. Je vais te donner 2 choix à chaque fois et tu dois les faire et me justifier tes choix. Alors, la première question de cette question à mitraillette, tu es plutôt Château Pétrus ou Rolex ?
C'était un fils, pas mal d'autres.
Ouais.
Je dirais, j'aime bien le vin.
Ouais.
Je dirais Pétrus. Ouais.
Tu as gardé ta Rolex ou pas ?
Ouais, j'ai gardé.
Ah, donc il a eu. On rappelle cette citation d'Afis Mamadov, Petrus for my friends.
And Rolex for everybody.
Rolex for everybody, voilà.
Ça là, bien aussi.
Il aura au moins donné, quelque chose, Afis. Hein. D'ailleurs, Afis, si tu nous. Bah non, en fait, on sait pas où il est. Alors, plutôt colline ardennaise ou artésienne ?
Artésienne.
Artésienne, pourquoi ? Parce que c'est deux moments très importants dans ta carrière.
Ouais, c'est deux clubs. J'ai souvent fait des clubs populaires. Enfin, j'en ai fait. Moi, j'ai fait Toulon, qui est surtout le Sedan, Lens et le Gaz. C'est quand même 3 clubs avec une populaire, avec une grosse identité. Mais voilà, 6 ans à Sedan, je me suis régalé. Ça a été la dernière saison a été un peu dure parce que je devais déjà partir au RC Lens la saison avant.
Oui, je me souviens. Ouais.
Mais je dirais artésienne parce que ma famille s'y sentait bien, donc voilà.
Plutôt élimination à domicile contre Bordeaux ou qualification à Gerland ?
Qualification à Gerland.
Ouais, parce que nous on parle souvent de ce match à Bordeaux comme un des matchs où il y a eu le plus, où Bollard le plus était en fusion. Je sais pas si t'as ce souvenir là, toi.
Alors, oui, je me souviens, c'est quand Certic met le coup franc là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais moi j'avais eu un souvenir, j'étais en tribune.
Ouais, t'étais blessé, ouais.
Ah ouais, j'étais blessé, ouais, 3 jours avant, je crois, donc j'étais vraiment dégoûté, donc.
Ouais.
Moi j'ai fait.
C'est vrai que je m'en rappelle.
D'ailleurs, il manquait tous les meilleurs joueurs, je crois. Il manquait Yaya, il manquait Pierrick, Valdivia, il y avait quasiment tout le monde était blessé et il y avait dû avoir plein de jeunes qui avaient été alignés, notamment Gébamin, si je me trompe pas, qui faisait un de ses premiers matchs.
Ouais, moi, j'avais fait les deux et je me rappelle que le parquage Lensois à Gerland avait été absolument extraordinaire. Et je crois qu'en plus, cette qualification, c'est le match qui précède un Lens-Le Havre où je crois qu'il y avait un anniversaire des Tigers qui c'est était ça. Aussi assez puissant.
Et je me souviens, cette qualification à Gerland, on va au bout de nous-mêmes. Parce que je me souviens, c'est on va en prolongation, non?
C'est ça.
Et Valdivia qui met le pénalty.
Voilà, on était lessivés, mais on est allé vraiment au bout, quoi.
Il y aurait eu des bons moments quand même hein, sur cette période un peu plus.
Cette année-là, on se gagne quand même deux fois à Gerland en quelques mois parce que début de saison d'après, but de Nomen Janari et victoire aussi avec Antoine Camboire aussi.
Improbable ça, cette victoire.
Il y avait quelques écharpes vertes dans le parquage de Lensois. C'était un très bon moment.
Alors pour poursuivre donc la mitraillette proposée par Antoine, je le rappelle, Antoine le Madrilène.
Te dédouane pas trop si les questions sont.
Elles sont superbes, Antoine. T'as fait un travail magnifique. Plutôt ferveur toulonnaise ou jet set cannoise, Jérôme?
Toulonnais.
Toulonnais, ouais.
Déjà chelon et j'ai vécu trois fabuleuses années où j'étais le plus jeune là-bas, avec entouré d'un super groupe et la ferveur à Toulon, elle était bon rencontre. Franchement, c'était un petit chaudron. Hein. On était resté 2 ans et demi invaincus chez nous. Donc j'ai beaucoup appris là-bas dans la mentalité et surtout quand on joue où on est né, c'est chose quand même
particulière.
Particulière.
Et c'est un club qui mériterait de revenir au moins en Ligue 2, je pense. Enfin, c'est une ville de sport et c'est vrai que le Sporting Club Toulonnais, en plus, il y a une vraie rivalité avec l'OM. Enfin, c'est un vrai club.
Moi, j'ai connu quand j'étais petit, j'allais à Mayol avec mon père quand ils étaient en D1 et c'est vrai que les Toulon-Marseille étaient hyper chauds. Et après, j'ai revu ça, je suis arrivé de 20 à 23 ans, j'étais à Toulon, et c'est vrai que cette atmosphère-là, elle était toujours, il y a toujours cette ferveur. Mmh. Après, c'est vrai que depuis, il y a eu, ça manque de stabilité, on va dire, et depuis, là, comme ils sont montés l'année dernière, ils n'ont pas pu se maintenir, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas un projet sur le moyen terme. Mmh.
C'est bougé là, hein, qu'est-ce à Toulon, on est d'accord? Ou ça s'est
non,
pas
fait? Non, 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 ça s'est pas fait, lui, il a repris le FC hier. Ah, okay. Avec Nicolas Anelka comme directeur sportif.
Ah ok. Bon, ça ira pas loin cette histoire. Alors plutôt,
je sais pas ce que gratuit, j'espère. Mais c'est complètement.
On a des problèmes.
Plutôt sanglier ardennais ou cochon sauvage corse, Jérôme.
Moi corse.
T'as pas le choix. Là.
Ouais non mais non mais parce que maintenant j'y habite, je me sens très bien, ma famille aussi. Alors, c'était pas du tout prévu qu'on s'installe ici après la carrière, mais le fait qu'à un moment donné, mes enfants, si on repartait, par contre, ils m'auraient fait la gueule. Et à un moment donné, quand on a mis, on a pensé à soi dans sa carrière, parce que c'est vrai qu'on est tout le monde. Notre femme, par exemple, met sa carrière entre parenthèses parce que elle est déracinée d'où elle est. Ouais. Les petits sont amenés au bouger et quittent les copains à l'école. Et après, d'ailleurs, la deuxième saison au Gaz, j'avais deux opportunités de jouer en Ligue 2. Et j'ai privilégié de rester en Corse, à Bastia-Borgo. Je retombe dans l'amateur, mais ça m'a permis aussi de transiter vers l'arrêt, chose qui est toujours un peu compliquée quand on arrête le foot.
On le rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, tu es directeur sportif du GFC Ajaccio aujourd'hui.
C'est ça.
Donc t'as une jolie transition. Quoi. On aura peut-être une question là-dessus après dans l'interview, mais là, on va passer sur une question cruciale d'Antoine. Je l'ai même pas compris celle-là, Antoine. Plutôt les corons ou pilou-pilou? Je sais même pas ce que c'est.
Ouais, pilou-pilou, on va dire non, on va dire les corons. Pilou-pilou, c'est le champ de Toulon au rugby, c'est ça?
Ah, ok. Je l'avais pas.
Le RCT.
Les paroles sont un peu plus si faciles.
Même si c'est ma ville, j'ai tellement eu de frissons pendant les corons que.
Ouais.
Les corons.
Plutôt Jean-Louis Garcia à Toulon ou Antoine Camboré au RC Lens? Elle est belle celle-là, Antoine, cette question, je la trouve très vicieuse.
Jean-Louis Garcia, alors les deux m'ont apporté. Moi, je dois beaucoup à Jean-Louis Garcia, même s'il n'a pas fait l'unanimité au sein du RC Lens, mais je sais qu'à Toulon, il a été très important pour moi, parce que je sortais du cursus canois de la formation. Et même si ça a été compliqué, même si j'étais jeune et qu'il m'est rentré dedans, ben, ça m'a permis aussi de rebondir. Antoine Camboré, ça c'est bien passé aussi, même si vers la fin, bon, ça a été un peu plus compliqué parce que pour moi, je comptais rester au RC Lens et il m'avait fait comprendre que je partais plus comme un titulaire en puissance. Donc, on va dire Jean-Luc Garcia à Toulon.
Okay.
Jérôme, juste une chose, une anecdote qui m'a été contée, tu vas peut-être pouvoir me confirmer ça. On parlait tout à l'heure de la victoire à Lyon à Gerland, 1-0. Est-ce qu'il est vrai qu'Antoine Comboiré a pleuré est-ce que vous vous souvenez de ça? Il a été terriblement ému après la victoire parce que c'était une période difficile où vous attendiez des renforts parce que évidemment rien n'arrivait et il avait été. Est-ce que tu te souviens de cette émotion? C'est Rudy Riou moi qui m'en avait parlé notamment et il m'a dit vraiment j'avais été hyper marqué. Est-ce que toi tu te souviens de ça?
Ouais, je me souviens très bien. Bah en fait, Antoine Comboiré il est entier. Donc à un moment donné là, il était tellement fier de nous, je pense qu'il s'y attendait tellement pas qu'on l'a rendu fier sur le terrain. À un moment donné, il a en toutes les besoins être très ému après ce match-là dans le vestiaire.
Merci.
On va passer aux questions de nos viewers. On a Alfred et Timo sur Twitter qui demandaient comment t'avais vécu l'épisode Mamadov. Alors l'épisode Mamadov, il est grand, mais comment t'avais vécu l'épisode Mamadov de l'intérieur?
Honnêtement, moi je trouve que ça a été le plus compliqué. En tout cas, personnellement, ça a été quand on est monté. Je me rappelle d'un stage à Vittel,
ouais,
où j'ai quasi subi ce stage parce que j'étais capitaine, parce que le coach Comboiré à cette époque-là m'appelait beaucoup pour maintenir le groupe à flot, qu'on reste dans le travail alors qu'il était absent. On entendait tellement de choses qu'au final on était un peu perdu et honnêtement j'avais pas aimé cette période-là. Et, ouais. Et en fait c'était la non-visibilité de ce qu'on allait devenir ou dans quelle division on allait être, alors que nous on avait fait quand même le taf sur le terrain la saison qui précédait. C'est là où ça a été compliqué. Après bon voilà, c'était un peu l'instabilité, mais on a dû s'adapter.
On rappelle Jérôme que qu'Antoine Comboiré à ce moment-là était resté en Artois pour marquer un peu sa désapprobation par rapport à ce qui se passait. Alors déjà, comment t'avais vécu ça en tant que capitaine? Et surtout, maintenant que t'es directeur sportif, est-ce que tu comprendrais qu'un entraîneur un entraîneur fasse ça? Parce que c'est quand même particulier comme décision.
On va dire qu'Antoine Comboiré avait montré son mécontentement par rapport à la décision prise. Il avait montré, c'était sa façon de le montrer. Après, ça faisait pas l'unanimité au sein de tout le monde. Mais il fallait l'accepter parce qu'il avait pris cette décision-là. Après il y en a qui étaient contre, il y en a qui voyaient pas trop d'inconvénients. C'est toujours délicat parce que c'est vrai qu'on était avec l'entraîneur adjoint et le préparateur physique. Mais bon, moi je sais qu'en tout cas il m'appelait assez souvent pour essayer de faire le lien avec le groupe et de maintenir le groupe dans le travail, dans le sérieux.
On peut passer aux questions de mes chers chroniqueurs. Amaury, ta question à Jérôme.
Mais écoute, moi, elle va être plutôt sur le projet aujourd'hui à Ajaccio. Je t'avoue que je sais pas depuis quand tu as installé, mais j'ai un peu consulté l'effectif. On voit qu'il y a quand même, pour une N2, des joueurs comme David Pollet, Roderick Philippi, qui sont un peu des joueurs importants. Déjà, est-ce que vous êtes considéré comme professionnel? Je vois sur votre site que vous parlez d'équipe professionnelle pour l'équipe 1. Et du coup, quel est le projet un peu à moyen terme?
Écoute, déjà, le club a subi deux descentes d'affilée. Oui. Ligue 2 en National, en National 2. Donc moi, on m'a appelé au mois de juin. Je suis resté en bon contact et j'ai été joué là-bas pour amener un second souffle et un nouveau projet au sein du club. Alors National 2, c'est pas si facile, notamment cette année avec l'arrêt des championnats où on est un peu pris. On est vraiment pris pour des pantins parce qu'on nous dit vous allez reprendre. Finalement, ça a arrêté. Et là encore, ces derniers jours, on nous a dit qu'on allait peut-être reprendre début mai. Donc après c'est semi-professionnel parce qu'il y a la majorité des joueurs qui sont sous contrat fédéraux quand même, qui vivent de ça. Donc voilà, c'est amené un second souffle avec dans le staff technique aussi David Ducourtois avec lequel j'ai joué. Donc voilà. Après voilà, c'est deux, c'est pas si facile parce qu'il y en a qu'un qui monte, donc pas trop droit à l'erreur. Et moi j'ai essayé d'amener ma compétence, on va dire, et mon petit réseau pour on va dire, pour faire un bon groupe et essayer de monter.
L'objectif est de remonter du coup, ouais.
En tout cas, d'être oui, on se le doit parce qu'on est le Gazélec, parce qu'il y a deux, trois ans, le club était encore professionnel. Donc, alors, c'est pas si facile, mais voilà, on va tout faire pour et sur le moyen terme, c'est en tout cas dès la saison prochaine d'être un prétendant.
Parce que du coup, la saison, elle a été plutôt compliquée, là, par le bout de saison que vous avez vécu.
Ouais, en fait, on fait 9 matchs de championnat. Après, On a maintenu les entraînements et on continue à les maintenir parce qu'on n'a pas envie de lâcher les garçons dans la nature comme ça. Et après, on a eu quand même un minimum d'entraînement et de matchs avec la Coupe de France, où on a été éliminé par Lille d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué dans la tête des joueurs parce qu'il n'y a pas de match le week-end. Donc c'est se préparer, c'est juste se maintenir en forme et le plus sérieusement possible, mais il n'y a pas la carotte le week-end, donc c'est dans les têtes, on va dire, c'est encore plus dur que physiquement.
Ouais, parce que je crois que vous êtes les seuls avec la D2 féminine à être encore dans l'incertitude de savoir si vous allez rejouer ou pas.
Hein. Ouais, normalement, on aurait une réponse début de semaine prochaine.
D'accord, merci.
Antoine, ta question à Jérôme.
Oui, mais je crois que nous, c'est la première fois qu'on a l'honneur de recevoir un directeur sportif dans cette émission. Donc, je voudrais savoir si, Jérôme, tu pouvais nous expliquer un peu quelle est ta journée type, comment se décompose la journée d'un directeur sportif, même si c'est un club de N2. Je pense qu'il y a des rituels chaque jour.
Moi, j'ai mon ami d'ailleurs qui est encore manager général au sein du Gazélec d'Ajaccio et qui était directeur sportif et qui m'a appelé au mois de juin pour prendre un peu de recul par rapport à ça parce qu'il venait de connaître deux descentes d'affilée. Alors, il y est pour beaucoup quand le club est monté jusqu'en Ligue 1 avec souvent le plus petit budget de chaque division. Mais là, il m'a dit ces deux dernières années, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Il est toujours au club. J'ai été chargé pour le recrutement. Donc de juin qui vient de passer, de monter une équipe, de repartir sur de bonnes bases, d'essayer de garder les garçons qui descendaient de National en National 2, ceux qu'on voulait garder, et après d'amener un nouveau souffle avec des garçons qui venaient de l'extérieur. Donc c'est beaucoup ce rôle parce que entraîneur, coach, ça m'a jamais tenté, honnêtement, d'être sur le terrain, ça m'a jamais trop plu, on va dire. J'avais pas cette fibre-là. Mais par contre, dans ce rôle-là, oui, parce que je suis toujours en relation avec les joueurs, mais je fais le tampon aussi avec toutes les composantes du club, et c'est ce qui me bat.
Est-ce que du coup, par exemple, enfin, qu'est-ce qui a été pour toi, entre guillemets, le révélateur de je veux faire directeur sportif, ou du moins être plus sur un poste à stratégie plutôt que d'être les mains dans le cambouis? Parce que tu parlais justement de cet épisode de Vittel. Est-ce que à ce moment-là, peut-être que ça a été un révélateur ou c'est autre chose?
Non, après, bon, j'ai toujours été, on parlait d'homme de l'ombre, j'ai toujours été un peu ce genre de profil de joueur. Donc j'aime bien aussi le travail et pas être trop mis en lumière. Après, on va dire cette étiquette de directeur sportif, mais bon, avec les moyens qu'on a au Gazélec, je peux vous dire que c'est beaucoup de débrouille au quotidien. Donc ça, et après c'est marrant, l'autre fois j'étais tombé sur un club où j'avais été élu Lensois de l'année, une année, je me souviens plus, peut-être ouais, l'année de la 2014 peut-être.
Ouais, ça doit être celle-là, tout à fait.
Ouais.
Ouais. À la Boîte du Nord.
Je me souviens, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. J'avais dû voter pour toi, je pense. Je me souviens plus en vrai, mais je le jurerais pas, mais c'est possible.
Et je me souviens, on m'avait posé la question, qu'est-ce que tu veux faire après ta carrière, et j'avais dit... Bah, ou conseiller de joueur, entre guillemets agent, ou directeur sportif. Et une fois que j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait ma fonction de droit pour essayer d'être agent. Et au final, maintenant, j'ai eu cette opportunité de directeur sportif. Donc, au final, j'ai réussi à mettre les pieds dans ce que je voulais faire.
Et on va conclure cette interview avec la question de Greg. Greg, je laisse l'honneur de conclure.
Ouais. Ouais, une question et demie, on va dire. C'est vraiment une question et demie. La première, c'est savoir si tu as un joueur du RC Lens que tu as connu, ou une personne du RC Lens que tu as connu à l'époque et que tu n'as pas revu, que tu aimerais revoir. Déjà, c'est la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu et j'aimerais tellement boire un coup avec.
Moi, j'ai beaucoup apprécié les groupes qu'on avait avec le RC Lens. Aledine Yaya, que je suis resté asie, je l'ai une fois au moins par semaine.
Ouais.
Mais elle est là ce soir.
Non, j'irai peut-être Pablo Chavarria.
Ça me fait ah ouais,
Pablo. Le revoir.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et la deuxième.
Chez moi, là.
Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il s'est fait les croisés il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Ah merde.
Ouais, il s'est fait une grave blessure. Là.
Bon. Et une dernière question, c'est voilà une anecdote que t'as jamais sortie, un truc qui s'est passé au Racing Club de Lens, voilà un truc qui t'a vachement marqué et que maintenant bah il y a pas prescription, il y a personne qui nous écoute, hein, on est qu'entre nous là, donc tu peux y aller, mais Mais vas-y, est-ce qu'il y a un truc vraiment que qui t'a marqué? Tu dis ouais, c'est quand même fou ce qui s'est passé. Et me dis pas que dans ces années-là, avec avec Monsieur Mamadov, qu'on aura peut-être un jour dans l'émission, on ne sait pas.
Moi, je voulais revenir sur cet épisode-là avec le fameux après-match de Châteauroux à l'époque.
Ouais.
Mais apparemment, vous êtes tous au courant, donc.
Mais vas-y, raconte, c'est toujours extraordinaire.
Non, mais c'est en fait c'était un match contre Châteauroux où on gagne 2-0, un bon match de Ligue 2. Et Hafiz Mamadov qui était là avec son fils et sa et quelques garçons avec lui, il était venu dans le vestiaire et je me souviens, il nous avait régalé, il nous avait fait un joli cadeau. Et d'où cette phrase en anglais, pour l'exemple, vous m'a dit.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais.
C'est vrai qu'il y avait des garçons, je me souviens, qui étaient jeunes, qui avaient d'autres montres et qui étaient quasi heureux qui glissait sur les genoux parce que on allait avoir ce cadeau, quoi. C'était
ouais, des bourrigeaux, des mecs comme ça, peut-être.
Bah, des garçons qui débutaient, ouais. C'était à l'époque, c'était des genoux, ouais. Ouais. Maintenant, je suis content de les revoir, là. Quand je vois Benge encore hier et tout, mais des garçons qui ont débuté. Il y avait Ben Bourrigeaux, il y a Baptiste Guillaume, il y a Willan Cyprien, Baptiste Gébamin, enfin, Jean-Philippe Gébamin, tout ça. C'était l'opportunité aussi pour eux de pas pouvoir recruter. De se mettre en lumière aussi en Ligue 1 et de se montrer.
Et quand on voit la liste que tu nous donnes, là, ça a plutôt servi. Hein. Cyprien, Bourrigeaud, Gébamin, c'est pas mal les carrières derrière.
Ouais. Avec le contre-exemple Cavaret, malheureusement, parce qu'il y a aussi des contre-exemples. Merci en tout cas, Jérôme, pour toutes ces réponses. On va rapidement terminer l'émission sur notre projection sur le prochain match face à Brest, ou Brest-Lens. Rapidement, messieurs, qu'est-ce que vous attendez pour ce match? On commence par Antoine.
Eh bien, comme on vient d'apprendre qu'il y avait potentiellement un nouveau cas Covid.
Apparemment, je l'attends pas.
Voilà, ça va être bien compliqué. Il va falloir essayer d'aller gratter un point. Je pense là, on va essayer de revoir nos ambitions à la baisse et puis on va y aller avec le. Bon, on va y aller. Eux, ils vont y aller. On espère avec tout le courage possible et toute l'envie pour aller gratter un petit point à Brest.
Je crois qu'il y a un retour des asymptomatiques, hein, probablement. Greg, toi, qu'est-ce que tu attends sur ce match?
Qu'est-ce qu'on peut attendre, si ce n'est que... Faut que c'est dommage que ça arrive vraiment au mauvais moment. Là, il y a deux matchs Brest et Nîmes qui semblent. Alors ça, c'est que sur le papier accessible. Et c'est quand même dommage d'être, pour le RC Lens d'être amputé de tant de joueurs. Franchement, si Lens va chercher un point à Brest, on rappelle, Lens n'a pas perdu depuis 11 matchs. Et là, il y a terme depuis 6 matchs, victoire nulle, victoire nulle. Si tu arrives à garder cette dynamique, parce que moi, je suis persuadé que Marseille, par exemple, va pas l'avoir facile contre Lens ce week-end. Il y a vraiment des matchs compliqués. Montpellier va à Lille.
Marseille est pas bon, hein, il faut le reconnaître. Hein, c'est vraiment pas impressionnant.
Non, voilà. Donc, garder la dynamique. Si Lens va arracher un point vu le contexte, ce sera déjà pas mal. Après, s'ils arrivent encore à surprendre. À force, on va se dire qu'il y a 20 mecs qui 20-25 mecs qui peuvent vraiment jouer en Ligue 1, parce que s'ils arrivent encore amputés de quelques mecs et d'aller chercher une victoire à Brest, ce sera pas mal. Mais ouais, s'ils arrivent à
chuter de Cheikh Traoré aligné en pointe exceptionnellement, on s'y attend pas pour ce week-end, mais ça peut arriver.
Et d'ailleurs, c'est super pour lui, parce que Cheikh, c'est vraiment un mec
génial de voir ça,
qui est adorable. On l'avait eu dans l'émission quand il était blessé, et c'est vraiment un mec qui est adoré par tout le monde au club, et c'est vraiment un autre vrai sourire. On a beaucoup parlé des mauvaises nouvelles venant de l'infirmerie là, et évidemment des cas de Covid, mais ça, c'est quand même un super truc. On en a pas parlé dans cette émission, mais Cheikh qui revient, c'est pas mal.
Ça fait très plaisir. Amaury, qu'est-ce que t'attends pour ce match face à Brest?
Bah écoute, pour ne pas paraphraser mes petits copains, je vais dire un vrai match de foot. C'est Brest connaît quand même une période compliquée, mais qui est quand même une belle équipe dans le jeu, qui est intéressante, et nous on ne le dit plus. Donc un vrai match de foot, et puis si on peut chercher quelque chose là-bas et poursuivre cette série, on va prendre.
Jérôme, moi j'ai posé une question bonus, juste est-ce que tu vois ce RC Lens se qualifier en Europe cette saison?
Ouais, je suis pas sûr qu'ils se contentent d'un match nul à Brest. Dans la spirale où ils sont, dans la forme où ils sont, je pense qu'ils y vont pour gagner, même malgré les absences.
On va faire les petits pronostics tour de table, et après on se dira au revoir. Greg, quel score pour ce match Brest-Lens?
Moi je dis un partout toutes les semaines, un jour ça va finir par arriver. Hein. Donc,
un partout. Antoine?
2-2.
Amaury?
3-2 pour Brest.
Et Jérôme, ton pronostic?
Moi je dis 2-1 pour Lens.
2-1 pour Lens. Ben, je ne sais pas pourquoi j'ai une petite préférence pour ce petit prono là. On va nous se dire au revoir, et vous le savez, on va remercier évidemment Antoine Amaury, Greg encore une fois très très efficace et très très bon à mes côtés. Jérôme, merci beaucoup pour toutes tes réponses et d'avoir accepté notre invitation. Ça faisait plaisir de te revoir ce
merci
soir.
Merci à vous.
On te souhaite merci. De profiter bien de ce soleil en Corse et de kiffer tes nouvelles fonctions de directeur sportif. On rappelle à nos auditeurs, pour suivre l'émission et nos articles ainsi que des interviews, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages YouTube, Facebook, Twitter et sur les différentes plateforme d'écoute, j'en cite au hasard, Spotify, Deezer, Podcast Addict, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous suivre à la radio maintenant sur RBM, la radio du bassin minier, 2 heures avant chaque match du RC Lens, et tous les mercredis à 18h. Cette émission est rediffusée, donc n'hésitez pas à aller nous écouter chez les copains de RBM. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc pour débriefer de ce match face à Brest. Et en attendant, je vais vous laisser sur deux mots que Hafiz Mamadov ne prononce peut-être plus aujourd'hui, mais que moi j'aime prononcer toutes les semaines. Allez, Lens!